C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour les commissaires, premier sujet ce matin, une autre réforme des structures en santé. C'est la sous-ministre Dominique Savoie qui a présenté hier ses recommandations. Et notamment, on propose de changer donc les structures, mais d'ajouter quelques gestionnaires pour avoir, par exemple, un cadre dans chacun des établissements plutôt que la structure CIUS et CIS. Nathalie.
En voyant le titre de la presse, une autre réforme des structures, je me suis dit, c'est la maison des fous. Et c'est notre karma, probablement, au Québec, hein, de passer par des réformes de structure pour remettre notre réseau de la santé sur les rails. Est-ce qu'on doit suivre les recommandations de Dominique Savoie, là, la sous-ministre du ministère qui propose cette réforme? J'ai envie de vous dire oui et non. Oui, l'idée de la décentralisation, c'est une bonne idée parce que, dans le fond, c'est de dire qu'on veut partager la prise de décision. En fait, on veut faire... Ce qu'on dit, le message qu'on envoie, c'est que la prise de décision, maintenant, va se prendre sur le terrain par les gestionnaires qui connaissent la réalité terrain. Après tout ce monde-là, là, ils sont capables de penser. Puis il faut mettre fin à l'ère des directives qui arrivent de Québec puis qui finissent plus d'arriver. On a vu ça durant la pandémie. Là. La directive qui part d'en haut puis qui avant de se rendre en Abitibi-Témiscamingue ben, prend 2 semaines. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose, sur la création d'une espèce de patente d'instance qui permettrait de coordonner le travail sur le terrain qui permettrait également de mesurer les résultats. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais je dis non à ça. Non, parce que c'est le rôle du ministère de la Santé d'établir les grandes orientations. Et puis c'est aussi le rôle du ministère de la Santé de s'assurer que le travail qui se fait sur le terrain est correct. Mais là, je me suis dit non, on va pas ajouter une autre structure. Déjà qu'il y a 14 sous-ministres qui travaillent avec Dominique Savoie au ministère de la Santé. Écoute, il n'y a pas assez de 2 pages, 2 feuilles, 11 par 17 pour entrer l'organigramme du ministère de la Santé là-dessus. Je peux pas croire qu'on va ajouter une autre patente.
Ben moi, plusieurs éléments. D'abord, on peut sembler un peu perdu quand on entend parler d'une réforme de la santé, alors qu'on a entendu il y a 2 mois M. Dubé parler, pour mettre les choses au clair. Dubé a proposé une réforme de la santé dans laquelle il y a 10 de points principaux. La plupart des points concernent la première ligne. Avoir plus de médecins capables de répondre. Et comment on a fait ça? On fait ça en impliquant plus les pharmaciens, les infirmières spécialisées, les infirmiers ambulanciers, etc. Avoir un système téléphonique qui filtre les demandes et qui les donne aux médecins seulement si ça les concerne vraiment. Pardon. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de la réforme de la santé. Il y a un autre axe qui est la décentralisation. La décentralisation, pourquoi est-ce qu'on en est venu à parler de la décentralisation? Parce qu'on s'est rendu compte, quand on a regardé le taux de débordement des urgences et le taux de le temps supplémentaire obligatoire, on s'est rendu compte qu'il y avait des hôpitaux qui arrivaient à échapper à ça. Baie-Saint-Paul, le CUSUM, le CHUM. Donc, il y avait des hôpitaux qui faisaient les choses différemment des autres et ça fonctionnait. Alors, on s'est dit, ben, il y a une capacité opérationnelle dans certains hôpitaux, il faudrait qu'on l'ait dans tous les hôpitaux. Mais, premièrement, si ça a été possible, dans le système actuel, à Baie-Saint-Paul, au CUSUM, au CHUM, de bien faire le travail, t'as peut-être pas besoin de réforme, ça, c'est la première chose. Mais supposons qu'on fasse une réforme, puis qu'on dise, on va donner des capacités de gestion aux institutions pour qu'ils soient capables d'imiter ces hôpitaux-là qui fonctionnent bien. Alors, comment ça fonctionne, ça? Des cimetières de réformes ratées, là, il y en a des milliers, là. Puis, autant de la centralisation que de la décentralisation. La décentralisation, c'est pas une recette en soi. Ça prend des ingrédients pour que ça fonctionne. Puis, le premier ingrédient, c'est qu'il faut pas que tu envoies 100 gestionnaires avec 100 bureaux puis 100 ventilateurs dans le réseau en disant, oh, à cette heure, on a des gestionnaires. Non, faut qu'il y ait un pouvoir, le gestionnaire. Si le pouvoir le gestionnaire n'a pas de pouvoir, c'est pas une vraie décentralisation. Il faut qu'il y ait un pouvoir d'affectation des ressources. Il faut qu'il y ait une imputabilité, une responsabilité. C'est-à-dire que si ça marche pas, on sait que c'est de sa faute à lui. Ça, c'est difficile dans un système où il y a plein d'intrants. Il faut qu'il y ait une autorité. Il faut qu'il soit capable de gérer des médecins, des syndicats d'infirmières, des syndicats de préposés, des syndicats de maintenance, etc. Est-ce qu'il va avoir tout ça? Ou bien c'est juste on envoie 100 gars avec 100 ventilateurs.
Non, mais la sous-ministre nous présente ça comme une révolution, la décentralisation, la gestion de proximité. Excusez-moi, là, on va refaire ce qu'on a fait il y a quelques années, à l'époque où chaque hôpital au Québec avait son directeur général, chaque CHSLD a fait son gestionnaire ou son directeur général. Alors, c'est de ça dont il s'agit. Dans le fond, c'est remettre de la pâte à dents dans le tube. Moi, je dis oui à ça. Un exemple concret, dans mon village à Maria, il y a toujours un hôpital. À l'époque, il y avait un directeur général. Je peux-tu vous dire que ça fonctionnait, l'hôpital? Il y avait des services, ça marchait. Aujourd'hui, l'hôpital n'est plus l'hôpital qu'on a connu. Moins de services, moins de couverture. Pourquoi? Parce qu'on a créé des méga structures. En fait, les prises de décision, la capacité de prendre des décisions s'est déplacée. Le pouvoir s'est déplacé vers de l'hôpital. Après ça, vers la région. Puis après ça, la région vers Québec. Alors là, ce qu'on dit, c'est qu'on revient en arrière. Tu parlais des réformes de la santé. Chaque ministre au Québec de la santé a connu sa réforme. Réforme Côté, réforme Rochon, réforme Couillard, réforme Bolduc, réforme Barrette, réforme... Réforme Dubé. Mais à travers ça, tu as eu deux grands rapports, la commission Rochon, puis effectivement le rapport Claire, puis un autre rapport qui a été produit sur les CHSLD fin des années 80. Alors tu dis, écoute, c'est devenu complètement... C'est devenu fou, notre affaire, là. C'est devenu complètement fou. Et le plus grand défi auquel le réseau est confronté, c'est, oui, la gouvernance, mais tout ça dans un contexte de pénurie de travailleurs. Il faut effectivement que, sur le terrain, ça se matérialise. Il faut que les gens aient de la latitude. Les employés sont démotivés, les gestionnaires également. Ils courent comme c'est comme des poules pas de tête. Alors, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à ton monde sur le terrain. Il faut que tu leur donnes de la latitude parce qu'ils sont capables de prendre des décisions. Alors, dans ce sens-là, moi, je dis, bon, c'est intéressant. En fait, on n'a pas d'autre choix que de poser un geste parce que là, on dépense quoi? La moitié du budget du gouvernement s'en va à la santé. Puis, beaucoup de Québécois ont l'impression qu'ils n'en ont pas pour leur argent. Il y a des indicateurs qui sont au rouge sur le tableau de bord. Ça, on le sait. Ça marche dans certains endroits, il faut le dire.
Oh oui, c'est vrai. Mais le tableau de bord, là, ça, parce que ça, c'est un des objectifs, là, c'est le tableau de bord national.
Est-ce que t'es allé le voir? Moi, je m'amuse avec ça. Non, mais je vais donner
dans
un exemple.
Dans tes temps libres?
Oui, ben j'en ai beaucoup. Mais je te donne un exemple, puis on a testé que le ministre ce matin, là. Les fameux guichets là, qui vont donner accès aux gens qui n'ont pas de médecin de famille pour un rendez-vous avec un professionnel de la santé. OK, tu vois là-dessus, tu dis qu'il y en a 42 de branchés, territoire branché sur 92. Donc, on n'est pas encore à la moitié. La cible, c'est septembre. Là, après ça, tu peux y aller par région. Et là, je suis allé voir pour ce qui est de l'est de Montréal. Sais-tu combien il y en a de branchés?
Non.
Zéro.
Ah.
Pourquoi? On sait-tu?
Oui, non. J'ai demandé. Oui. Ben, il y a un enjeu à Montréal. Je veux dire,
il y a un enjeu.
C'est plus compliqué.
Le grand cirque du tableau de bord commence parce que c'est comme ça dans tout. Tu sais, Hydro-Québec avait le grand tableau de bord. Mais lui, regarde, il avait ça chez Cascade. Parce que M. Dubé, là, il s'est rendu compte que la performance des usines de Cascade n'était pas la même. Il a mis des gestionnaires par usine. Il a fait un tableau de bord. Il a été chercher l'information. Puis là, il s'est rendu compte qu'il était capable d'équilibrer un peu. La patente, c'est que ça marche jamais. Faire de la pâte à papier, là, c'est pas comme soigner du monde. Parce que quand tu soignes du monde, tu dis oui, mais dans mon coin, les gens sont plus malades. Ou dans mon coin, les gens habitent plus loin de l'hôpital. Oui, dans mon coin, on a moins de médecins. Dans mon coin, on a moins de capacité de rétention des infirmières. Dans mon coin, fait que ça, c'est dans mon coin. Ici, notre réalité à nous, c'est pas ce que vous voyez sur le tableau de bord. Et puis, ah oui, mais nous, on monte moins rapidement le monde vers les étages. On les garde plus longtemps à l'urgence. Ah ben, nous, on les monte directement, sur les étages. Fait qu'on a des meilleures statistiques à l'urgence. Un tableau de bord, là, ça, c'est un party pour les consultants.
mais c'est surtout, dans le fond, un outil pour permettre au ministre de savoir ce qui se passe sur le terrain. Parce que le ministre a dit, rappelez-vous, durant la pandémie, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, je n'ai pas accès à l'information. Fait que le tableau de bord, il permet en temps réel de savoir ce qui se passe sur le terrain. Mais tout ça pour vous dire que, j'espère que dans cinq ans, on ne sera pas encore là à la commission à parler de... Ah,
mais non, ça nous prend des sujets, Nathalie!
La troisième réforme.
Oui, la quatrième.
On est rendu, les amis, à la sixième avec la réforme Dubé. Y aura-t-il une septième réforme?
On s'arrête là-dessus au retour. Est-ce qu'on doit maintenir ou abolir des peines minimales de prison pour des gens arrêtés pour trafic de stupéfiants et même, dans certains cas, des infractions liées aux armes à feu?
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, est-ce qu'on doit supprimer les peines minimales obligatoires, donc pour des infractions genre trafic de stupéfiants ou encore des crimes commis avec des armes à feu? Donc, faire disparaître une peine minimale de prison.
Ben le gouvernement... Ah, c'est toi là qui commence? Excuse-moi, désolé.
Réaction divisée en deux. Pour la drogue, si c'est de la consommation personnelle, c'est-à-dire des petites quantités, moi j'applaudis, let's go, on met pas en prison quelqu'un pour ça. Mais la possession d'armes, attention, on pose des questions. D'abord, le premier objectif avoué par le premier ministre, c'est de réduire l'écart qu'il y a entre les groupes racisés, les autochtones et le reste de la population dans les institutions carcérales. Trop de personnes des mêmes communautés qui se ramassent là-dedans. Puis on peut pas dire que nos prisons, ce sont des lieux idéaux pour la réhabilitation. Ça a perdu une bonne partie de sa capacité à réhabiliter. Fait que tu fais juste enfoncer plus le monde dans le crime. Alors, le premier ministre de dire, ben là, faut rétablir l'équilibre. Un instant. On rétablit pas l'équilibre en ne pénalisant pas un crime qui a des conséquences graves, comme la possession d'une arme. Il faut agir en amont de ça. Il faut, si t'es rendu que t'as une arme dans tes mains, t'es en possession d'une arme, on dit pas, faudrait prendre en considération le fait que ces personnes-là ont eu une vie difficile, etc. Non, non. Quand t'as une arme dans les mains, c'est fini. Merci, bonsoir. Mais avant, j'en reviens pas, moi, qu'on ne prenne pas en considération que ces personnes-là, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de malheur qui a précédé la possession de cette arme-là. C'est le fait qu'une partie de la population n'a pas le droit au bonheur, n'a pas le droit à la stabilité parentale, n'a pas le droit au soutien de l'institution, n'a pas le droit au calme, à la sérénité, à l'égalité des chances, à tous les ingrédients qui constituent le bonheur. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, un jeune se criminalise. Et si on n'est pas... Il faut absolument, absolument, absolument agir sur ces 7-8 années-là qui ont précédé. Par contre, une fois que tu as le gun dans les mains, mon gars, tu t'en vas dedans.
Mais le projet de loi C5 qui est adopté hier à la Chambre des communes a été voté par les libéraux, le NPD et par le Bloc québécois. C'est les conservateurs qui se sont opposés. Puis ils s'opposent généralement, les conservateurs, à l'abolition des peines minimales davantage par idéologie, en fait. Certains diront par dogmatisme. Les libéraux ont une approche plus pragmatique là-dessus. Et je vous dis ça parce que le projet de loi abolit certaines peines minimales, mais pas toutes les peines minimales. Puis la précision puis les nuances sont importantes. Par exemple, les peines minimales obligatoires vont demeurer pour les meurtres, hautes trahisons, infractions sexuelles, y compris les crimes envers les enfants, l'infraction de conduite avec faculté affaiblie, certaines infractions relatives aux armes à feu, y compris les infractions relatives aux armes à feu liées à une organisation criminelle. C'est important de le dire. Celles qui sont abrogées. Et là, il y a un débat. Parce qu'il y a le débat sur les peines minimales obligatoires, puis il y a le débat sur qu'est-ce qu'on abroge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retire et qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on conserve. Les peines minimales enlevées, vol à main armée, déchargement d'une arme à feu avec l'intention de causer des lésions corporelles, contrebande d'armes. Là, j'avoue que je suis un peu sceptique. T'enlèves une peine minimale obligatoire pour de la contrebande d'armes, alors qu'actuellement, des tonnes de ressources sont mobilisées au Canada.
Je t'avais juste une précision en plus. Le ministre Lametti dit on enlève la peine minimale, mais on augmente la peine maximale.
De 4 ans.
De 10 à 14 ans.
Mais non, mais ça. Tu comprends, il y a quand même un petit peu un non-sens dans ça, là.
Ben oui.
Ouais, mais tout est une question d'approche. Parce que, dans le fond, les conservateurs disent oui aux peines minimales obligatoires parce que ça crée un effet dissuasif sur le crime. Là-dessus, c'est pas certain que ça crée un effet dissuasif sur le crime parce que des données confirment que le crime est en diminution, oui, mais dans d'autres secteurs, il est en augmentation. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, Luc. Par exemple, pour les infractions liées à la possession simple de drogue, lorsque le gouvernement a dit aux intervenants sur le terrain, vous allez devoir trouver autre chose que la prison pour punir.
Oui, mais c'est ça l'autre chose qu'on n'est pas capable de donner depuis 100 ans.
Ben, les traitements, enfin, bref.
Oui, je sais, mais il n'y en a pas. Il y en a de moins en moins.
Le défi est là, je le reconnais. Ben oui. Tout à fait. L'autre chose, c'est que moi, je suis sensible à l'argument qui dit, ben, laissons les juges, la latitude aux juges pour déterminer quelle est la peine, effectivement, la peine la plus adéquate. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Parce que le propre du système de justice, c'est quoi? C'est de déterminer des sentences qui sont proportionnées, qui sont équitables par rapport au crime qui a été commis. Prenons un exemple concret. Un jeune de 18 ans, il est au volant de sa voiture. Ben, écoute, il fait le fou sur la route, aucun antécédent criminel. Puis il frappe un pauvre père de famille. Il y a eu un cas cette semaine à Radon, là, le jeune homme a 17 ans. Ce petit garçon est repentant, pas de dossier criminel. Et là, s'il y avait une peine minimale obligatoire, ben, ce petit bonhomme-là se retrouverait en prison automatiquement quoi, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Alors là, ce que les libéraux disent, un instant, il y a des cas des cas qui font en sorte qu'on condamne non seulement à la prison un jeune qui n'a pas d'antécédent criminel, mais on hypothèque le restant de partie importante de sa vie.
Je suis d'accord avec ce point-là, puis je suis aussi d'accord avec ton premier point qui consiste à dire que les peines minimales ne sont pas garantes d'une diminution de la criminalité. D'ailleurs, si elles l'étaient, il y en aurait moins de criminalité puisque les peines minimales sont en fonction depuis 2015 à peu près. Avant ça même. C'est Harper qui les a mis en place.
2006.
En 2015, Trudeau avait dit qu'il les abolirait. Fait que depuis 2006, on a des peines minimales. Est-ce qu'on a une diminution de la criminalité? Non. Donc, ça veut dire pas dire que des peines minimales ne règlent pas tout. Et pour savoir si oui ou non une peine minimale a un impact, moi, je demanderais, certainement que les juges ont un pouvoir de jugement, une capacité de jugement, je demanderais aussi les gens de terrain. Les policiers, les travailleurs sociaux, les procureurs. Parce que la dernière catégorie à qui il faut demander, c'est les politiciens. Parce que les politiciens ne connaissent pas le terrain. Et puis agissent en fonction de slogans, comme dirait Jean Chrétien, c'est-à-dire ça semble faire du sens. Mais ce qui semble faire du sens, et moi je demanderais en particulier aux policiers, parce que les procureurs et travailleurs sociaux, je l'ai dit aussi, mais par les policiers en particulier, parce que moi j'en ai marre qu'on les considère comme des idiots et des violents sous prétexte qu'on les juge en fonction de leur uniforme et de leur fonction, qui ont une fonction de coercition. Moi, j'en connais plein de policiers. Et les policiers et policières que je connais ont du jugement, de la connaissance terrain, de la sensibilité. Et j'aimerais qu'on considère tout le système de coercition comme étant un partenaire, pas comme étant le mal qu'il faut éviter.
Mais moi, je veux réagir quand tu dis que les politiciens font de la politique avec ça. Dans le fond, on se gouverne en fonction des slogans, comme tu dis. C'est plus nuancé que ça, parce que l'approche des libéraux versus les conservateurs est très, très, très différente. L'approche des libéraux, sans jeu de mots, l'approche est plus libérale. C'est-à-dire que on dit, un instant, là, les peines minimales obligatoires c'est pas la solution unique pour dissuader une personne de commettre un crime. Alors que chez les conservateurs, on est dans une dynamique tu comprends?
Ben oui.
Cherche le verbe.
L'automatique.
Là, la matraque, en fait. Tu comprends-tu? C'est le bâton, c'est la matraque.
Sans savoir si ça a des résultats.
On est dans une dynamique de coercition. Voilà. Alors que chez les libéraux, on est vraiment dans une dynamique, une approche de réhabilitation.
Oui, mais réhabilitation sans moyens, là, ça donne quoi?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'autre chose, beaucoup de peines minimales obligatoires ont été contestées sur le plan constitutionnel. Alors, au fil des années, le gouvernement s'est dit, puis les libéraux sont arrivés en 2015, un instant, parce que la loi, c'est une chose, mais la loi a été ébranlée dans ses fondements même devant des tribunaux pays qui, à répétition, ont jugé que certaines peines minimales obligatoires ne respectaient pas la Constitution. Fait que, le gouvernement est arrivé à la conclusion, il faut bouger parce que des peines qui ne respectent pas la Constitution, on s'entend que t'as pas le choix comme législateur de poser un geste.
Mais je vais peut-être dire une énormité, mais je vais quand même...
Ah, let's go,
c'est parfait. On s'encourage, c'est bon ça. J'aimerais savoir jusqu'à quel point le politique, on va l'appeler comme ça, croit vraiment que le travail communautaire, les organismes communautaires sont efficaces. Là, quand il y a des fusillades, puis que Montréal-Nord est touché, puis que Rivière-des-Prairies est touché, là, on se dit, oui, il faut organiser des clubs de basket, ça passe par, pas juste la police... Ouais, mais ça fait des années qu'on sait ça. Puis ça fait des années que ces organismes vivent sur du financement plus que temporaire, là, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a une pression, mais pendant des années, moi, j'ai vu des organismes qui aidaient à sortir du monde de la rue, puis c'était quoi? C'était, ben là, je sais pas, je vais être en opération l'an prochain. Moi, je pense que les politiciens, beaucoup font du spin, mais pas... Il y a des gens qui... crois pas ben à ça.
Ce que tu dis, en fait, c'est que les bottines ne suivent pas les babines.
J'allais dire la même chose.
Voilà, exactement, tu vois. En fait, il y a un double discours. Quand c'est le temps de les féliciter, on les félicite.
Ah ben oui.
Mais quand vient le temps d'assurer leur financement, par contre, là, c'est compliqué.
Compliqué. Exactement. Tu sais, il y en a des... c'est quoi le groupe de boxe là, qu'il y avait? C'était-tu les Souverains, quelque chose? Le groupe de boxe dans Montréal-Nord qui a fait un travail de réhabilitation important. Là, ça a fonctionné là, pendant des années. Il y en a plusieurs des groupes, mais est-ce qu'on a vraiment une analyse de l'impact puis le suivi le avant puis le après? Dans quelle mesure, par exemple, un groupe communautaire est capable de sortir un enfant d'une gang, pas quand il sort de prison, pas quand il risque d'être en prison, avant qu'il rentre dans la gang? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Est-ce qu'on sait, par exemple, moi j'aimerais ça poser des questions aux politiciens, pas juste peine minimale ou pas peine minimale. Est-ce que la prison réhabilite? Est-ce que les peines dans les communautés sont utiles et efficaces? Est-ce qu'on peut briser le besoin d'appartenance à une gang? Est-ce qu'on peut pénaliser la valorisation de la violence sur Internet? J'aimerais qu'on réponde à ces questions-là en profondeur.
Merci à tous les deux. Bonne journée.
C'est 23.